C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Bonjour, aujourd'hui je vous invite à partir à la rencontre de deux des quatre artistes invités par l'association Aquasol pour son salon international d'aquarelle qui se déroule cette semaine, salle d'Anchin, à Douai. Quatre rencontres, deux aujourd'hui et puis deux à venir également sur le 94.10. D'abord aujourd'hui, eh bien, je vous invite à découvrir une artiste et une forêt en hiver, une artiste qui nous explique sa démarche au parcours sensationnel. Elle s'appelle Jeannick Verger et on la retrouve de suite, salle d'Anchin, à Douai.
Écoutez, je pense aussi qu'il y a des pionniers comme Kandinsky qui ont apporter un souffle de modernité dans l'aquarelle classique qui n'est pas du tout rébarbative, qui au contraire était l'ébauche du travail à l'huile. Mais je pense qu'il faut faire évoluer l'aquarelle en tant que telle et qu'elle a sa place tout entière parmi les autres techniques.
Votre parcours personnel ?
Alors écoutez, il est assez chaotique, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être dans l'atelier de Roger Toulouse, un peintre orléanais. Ensuite, j'ai eu une carrière de sportive de haut niveau et d'enseignante. Et puis, malheureusement, la vie n'est pas un long flanc tranquille. J'ai eu des problèmes de santé qui m'ont ramenée un petit peu à la palette d'aquarelle classique et là où je peux m'exprimer pleinement.
Précision, quand vous disiez que vous étiez professeur des écoles ?
Non, j'étais prof de collège et assez curieux, français EPS, vous voyez. Donc, et je faisais aussi des ateliers d'art plastique dans le collège, d'interdisciplinarité. Et ça, ça apporte énormément, quoi. Parce que bon, dans l'œuvre, il y a de la poésie. Donc je m'intéresse beaucoup à la littérature. Quelquefois, le titre de l'œuvre, c'est un titre poétique. Donc moi, je suis persuadée qu'entre musique, poésie, littérature, peinture, tout est lié.
Et le sport, c'était quelle discipline ?
L'aviron. C'était de l'eau. Donc, il y a aussi... Vous savez, ce n'est pas innocent, le parcours. Tout est viscéral dans la vie. Voilà. Tout est lié. Votre construction personnelle ne peut faire que donner une œuvre à l'image de ce que vous êtes.
Au début, c'est quoi ? C'est d'abord un passe-temps.
J'ai été vraiment captée par le travail d'Émile Nold qui proposait une aquarelle de tempérament, une aquarelle un petit peu hors des sentiers battus. Et là, je me suis dit, il y a peut-être des recherches à faire pour faire évoluer l'aquarelle vers beaucoup plus d'un style plus contemporain.
Avec beaucoup, cette fois-ci, de technicité. C'est quoi ce côté recherche technique et prouesse un petit peu ? C'est la sportive qui a cherché, la compétitrice ?
Oui, c'est un nouveau défi. C'est-à-dire que mes réflexions m'ont amené à d'abord m'opposer à tout ce qui est fait de façon traditionnelle, à savoir j'utilise un papier lisse, hydrophobe. Ce n'est plus un papier qui absorbe la couleur et l'eau, c'est-à-dire que les pigments restent en superficie et dépose de la matière, et ma recherche c'est justement d'avoir des matières très différentes. Donc première chose, un papier lisse, ensuite la non-couleur ou voire même le monochrome, et là où il faut que je sorte à la fois la lumière de la matière et des valeurs du noir.
Ça veut dire que tout dépend à ce moment-là du séchage, si j'ose dire, parce que ça va être compliqué de faire sécher sur un papier qui ne veut pas de l'eau.
Oui, alors déjà, je n'utilise pas le sèche-cheveux parce que comme c'est un papier qui hydrophobe et formé de polypropylène, donc le sèche-cheveux, il n'aime pas, donc ça sèche la nuit. Donc j'ai des temps de séchage très longs la nuit. et je travaille zone par zone, c'est-à-dire que le papier peut s'effacer. Donc ça aussi, c'est un atout majeur, c'est-à-dire je peux revenir sur les zones, alors qu'un papier aquarelle, il n'y a pas de repenti quelquefois possible. Une aquarelle peut être rapidement faite. Or, moi, ça demande du temps, puisque je travaille zone par zone la matière.
C'est-à-dire que le matin, au réveil, vous découvrez ce qui s'est un peu passé, ou alors il y a une phase de surprise, ou alors ça y est, maintenant vous savez ce que ça va donner.
Non, quelquefois je joue les somnambules, je vous l'avoue, et j'essaye de voir un petit peu ce qui se passe pendant mon absence et de pouvoir corriger en temps utile.
On se doute donc que ce travail n'est réalisable qu'en atelier.
Oui, oui. Non, je ne peux pas travailler à l'extérieur. En plus, j'ai un fonctionnement qui n'est pas du tout académique, c'est-à-dire que j'intègre tout dans mon cerveau, les choses matures à l'intérieur de moi et ressortent en fonction de ce que me propose l'eau. Donc, j'interviens, c'est l'eau qui me guide et c'est moi qui m'adapte à ce que me propose l'eau.
Le bois, la forêt, la plaine, l'écorce que vous donnez à voir, elle est dans votre tête, elle est sur modèle, ça vient de où ?
Ça vient de l'intérieur, ça vient de mon œil. J'ai un œil qui capte photographiquement ce qui me sensibilise dans la nature. Je peux être sensible à une couleur, à une matière, à une forme de paysage qui est maturée intérieurement.
C'est vraiment le fruit de votre imagination, la retranscription de quelque chose qui a peut-être été vu, mais qui a été brassé, mouliné.
Oui, c'est ça. Et en plus, je ne veux pas faire une représentation. Je suis dans la suggestion pour permettre aux spectateurs, aux visiteurs, de créer son propre voyage.
Quand on vient et qu'on est invité, comme ça, comment on fait pour sélectionner ce qu'on a envie de montrer ?
Alors là, ça a été simple parce que j'ai pris la thématique de l'arbre et de la forêt. Donc j'ai rassemblé toutes mes œuvres qui étaient dans cet esprit pour essayer de donner une cohérence.
On a des périodes comme ça où il y a des thèmes qui vont plus être vos axes de travail pendant un moment donné ?
Alors écoutez, j'ai plusieurs thématiques. J'ai une thématique de paysage intérieur, j'ai une thématique d'espace arboré et j'ai une thématique beaucoup plus graphique, écriture, parce que je suis très sensible à la gestuelle et à tout ce qui est la sensibilité orientale. Parce que là, vous avez une philosophie où la gestuelle prend un autre sens, une autre dimension.
C'est-à-dire que là, on met de la dynamique dans l'œuvre en quelque sorte ?
Oui, oui. Aussi bien la dynamique gestuelle, mais aussi il faut qu'il y ait la dynamique de la lumière. C'est-à-dire que dès lors que je suis dans un monochrome, il faut que la lumière arrive dans le monochrome. Et ça, c'est à la fois un défi et bon, c'est une gageure que je m'impose.
On donne des noms à chacune de ces œuvres.
Oui, et bien souvent, c'est le départ poétique. Par exemple, ça peut être celui-ci, c'est Le silence effeuillé. Et là, tout de suite, ça me suggère des choses intérieures et ça me permet de me lancer. Vous pouvez très bien avoir une idée de départ, mais qui va évoluer en fonction de l'eau qui travaille. Et l'arrivée, ça ne sera pas l'intention première.
Le format, il se décide quand ?
Bon, écoutez, je suis toujours de plus en plus grand. Mais les plus grands ne sont pas encore là. Je ne pouvais pas charger ma voiture. Donc, et je vais vous dire, je peux très bien passer d'un très très grand format, mais je m'impose aussi des tout petits, parce que là, il faut concentrer toute la dynamique des règles artistiques qui s'imposent. Donc, quand je fais un tout petit de 10-10, il faut que soient concentrées toutes les règles artistiques, tout comme sur une grande œuvre. Et ça, c'est un travail que je m'impose, ce sont mes gammes en fait. Comme un musicien, je fais des gammes. Je fais des gammes artistiques.
Quand on signe l'œuvre, c'est-à-dire que c'est comme l'auteur qui donne le bon à tirer, c'est que ça y est, c'est fini.
Oui, oui, oui. Franchement, quelquefois vous ne signez pas tout de suite parce que vous vous dites, il y a encore quelque chose à modifier, il y a encore quelque chose qui ne va pas, il y a encore quelque chose qui esthétiquement, qui cloche à mon œil en fait. Et je laisse poser l'œuvre 2-3 jours, j'y reviens, je regarde. Et quelquefois, ce n'est pas signé du tout, donc ça va au rebut.
Il est important que le visiteur vous exprime son ressenti, ce que lui raconte votre œuvre.
Oui, parce que peut-être que le visiteur n'a pas le même ressenti que moi lors de la création. Et c'est ça, c'est-à-dire que si je peux créer, si je peux susciter quelque chose d'autre chez la personne. J'ai vu quelquefois des personnes pleurer face à une de mes œuvres et la dame me disait écoutez, ça m'évoque du passé, ça évoque mon enfance. J'ai fait une fois une allée dans la forêt où la personne me dit mais ça c'est le chemin dans lequel j'étais quand j'étais enfant. Donc les gens retrouvent, ils ont à la fois quelque chose de commun avec vous et on fait émerger des souvenirs d'enfance.
À quel moment vous prenez conscience véritablement que votre travail commence à être quelque chose de très abouti, de remarqué, de remarquable?
Écoutez, là où j'ai vraiment réalisé, ça a été les premiers grands prix, quoi. C'est les premières récompenses, là, c'est de l'émotion, c'est l'aboutissement de quelque chose. J'en suis tout émue. On ne comprend pas, on se dit qu'est-ce qui se passe, et puis les choses s'enchaînent, on va de salon en salon, et puis les gens... Mais moi, je suis vraiment dans mon monde, et là, des fois, je ne comprends pas, mais bon.
C'est agréable que de créer du beau.
C'est pas créer du beau, c'est créer de l'émotion. Mais le beau vient dans l'émotion, c'est-à-dire que l'esthétique, elle est complémentaire de l'émotion. Donc, il faut à la fois susciter l'émotion, la profondeur, mais il faut en plus qu'il y ait cet aspect de dire, ça tient, c'est cohérent, c'est beau.
Quand je me promène dans un musée, moi, et que quelque chose m'attire, j'aime bien regarder longtemps l'ensemble, aller chercher le détail, reprendre un temps, me poser, la regarder, fermer les yeux et savoir si je l'ai véritablement intégré. Oui. Vous avez déjà fait l'exercice? Est-ce que ça vous arrive même maintenant de rêver, en quelque sorte, de vos œuvres réalisées ou de celles à venir?
Écoutez, quelquefois je m'étonne, je me dis, quand tu l'as fait, c'est un moment d'extase. Je dirais presque entre guillemets un moment de jouissance. Et des fois je m'étonne, je me dis, mais comment tu étais à ce moment-là pour avoir créé cette œuvre? Il y en a certaines, je me dis, qu'est-ce qui a fait en toi qu'au bon moment, tu as utilisé le bon outil, au bon endroit, au bon moment? Et c'est ça qui crée le petit plus de l'œuvre complètement unique. Je suis vraiment dans la recherche de matière inédite. Mais il faut que l'œuvre, elle ait aussi le graphisme. Dès lors que vous êtes dans la matière, vous pouvez faire une œuvre que de matière. Mais il faut aussi harmoniser le graphisme avec. Et ça, je pense qu'il faut trouver... Et le graphisme, comme je vous disais, la gestuelle, où il faut être précis, il faut montrer que sur le plan, il y a aussi en vous le dessin. C'est pas que de la matière. Mais j'ai quand même fait 10 ans d'aquarelle classique à dessiner, etc. Après, excusez-moi, on lâche les chevaux, quoi. C'est-à-dire qu'on est pris par les thématiques qu'on s'impose. C'est-à-dire que moi, j'ai des critères quand même. Quelquefois, j'ai envie d'aller sur une voie détournée, mais je me suis fixé un objectif. Donc, j'avance petit à petit, et tant que je découvrirai des matières nouvelles, je continuerai à travailler sur ce papier-là.
Ça arrive que des jours, ça vous fuit, que ce n'est pas le jour, que ce n'est pas le moment, qu'on n'y arrive pas.
Oui, oui. Alors ça, c'est mes jours de bidouille, entre guillemets. C'est-à-dire que je sais que là, je ne vais pas être disponible dans ma tête pour avoir l'instinct de créativité. Mais il n'empêche, je suis à l'atelier et là, je fais de la recherche. C'est-à-dire que je sais que ce jour-là, ça ne passera pas. Mais si je suis sur une série assez favorable, je peux très bien passer 4-5 œuvres sur une série. Ça dépend. Mais la fibre créative, vous ne l'avez pas tous les jours. Ça, il faut l'accepter. Et quelquefois, c'est frustrant parce qu'on a envie, mais ça ne passe pas. Donc ce jour-là, ce n'est pas la peine d'insister. Il faut passer à autre chose.
Moi, j'ai vu beaucoup d'horizontalité qui mène vers une verticalité. Oui, dans le sableau, on passe véritablement d'un bois couché, peut-être mort, à une forêt verticale, elle aussi endormie.
Oui, mais c'est ça. L'objectif, c'est ça. C'est de vous amener d'un premier plan horizontal vers la profondeur. Et la profondeur, elle est dans la verticalité. Toutes mes œuvres, à peu près, sont construites de cette façon-là.
Là, on est sur du monochrome. Et quand il y a de la couleur, ça nous laisse quasiment imaginer ou une période de l'année ou alors un moment du jour.
Mais là, c'était l'été indien. En fait, je suis allée il y a fort longtemps au Canada. Et quand c'était le début de l'été indien. Et cette réminiscence des couleurs des forêts canadiennes quand j'étais dans l'avion, en fait, est restée en moi et rejaillit au bon moment.
C'est parfois compliqué de se séparer d'une œuvre.
Oui, très dur. Surtout les dernières, quand on sait qu'elles sont très bonnes. Donc là, c'est un déchirement. Là, vous abandonnez un bébé.
Entièrement à part, ça vous va bien ?
Oui, rebelle. Rebelle, hors des champs traditionnels, anti. Ouais. Il fallait absolument que je m'impose, que je m'oppose à tout ce que certains critères qu'on dit, ne pas utiliser telle couleur parce qu'elle est trop noire, etc. Volontairement, j'utilise le noir pour montrer que le noir est expressif aussi.
Et pour découvrir les œuvres de Jannick Verger, eh bien rendez-vous jusqu'à la fin de cette semaine aux salles d'Anchin à Douai avec l'association Aquasol. C'est en entrée libre. Dans un instant, on partira visiter l'univers de Jean-Paul Chiffrine avec des drôles de maisons et une vraie poésie. C'est à venir dans La Puce à l'Oreille.
Radio
Ska
Sensé.
Radio Ska Sensé.
C'est un garçon qui veut tout peindre en noir. Son frère habite un sous-marin. Son père fait sa 19e dépression nerveuse. Il rêve en secret de sa mère. C'est un garçon qui veut avoir satisfaction. Sa sœur habite un champ de fraises. Son père attend le vol 505, il rêve d'épouser sa mère.
Ce garçon-là, c'est moi. Ce garçon-là, c'est moi.
C'est un garçon qui veut danser avec Miss Toddy. Son père habite le jardin des pieuvres. Son frère prépare la 9e révolution. Il rêve d'un enfant avec sa mère.
Ce garçon-là, c'est moi. Ce garçon-là, c'est moi.
Écoutez La Puce à l'Oreille sur Radio Scarpe Sensé. Nous sommes aujourd'hui avec les artistes invités par l'association Aquasol dans le cadre de son exposition internationale d'aquarelle qui se tient jusqu'à la fin de semaine aux salles d'Anchin à Douai. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de Jean-Paul Chiffrine. Jean-Paul Chiffrine qui, finalement, ne se présente pas de premier abord comme un aquarelliste. Jean-Paul Chiffrine.
Je suis croquineur. Pourquoi croquineur ? Parce que je suis un retraité de l'architecture et puis j'avais envie de passer une retraite à reprendre ma passion, le dessin. Je ne suis pas illustrateur, je ne suis pas coloriste. Je fais du croquis, c'est ce qui m'intéresse. Quelque chose de très spontané. Alors, si je fais du croquis, ben, je suis un croquineur. Quoi. Et je fais des croquinages. Mes croquis sont en général toujours dessinés in situ. J'adore le croquis sur le vif, ressentir les lieux. Je m'installe, je passe beaucoup de temps à trouver un angle de vue, mais quand je sens bien les lieux, le dessin est terminé. Je suis dans ma bulle complète, je n'entends rien, je vois rien, je me consacre à ma vision et je dessine. En revanche, l'aquarelle, c'est bien, j'ai choisi ces deux disciplines parce que je n'utilise pas de crayon, uniquement de l'encre et de l'aquarelle, parce que je ne veux pas de retouche, je ne veux pas gommer, je veux que ça soit le premier jet. S'il y a une erreur, je l'interprète. Donc exclusivement encre aquarelle, deux disciplines qui ne permettent pas la correction. Le blanc, c'est le blanc du papier, l'aquarelle. Et l'aquarelle dans la rue, quand la météo ne le permet pas, je me réfugie à l'abri et je pars dans mes univers oniriques, où là, j'ai plus de contraintes. Je pars sans me poser de questions aucune.
Dans votre passé professionnel, vous aviez travaillé sur des maisons sur pilotis ou jamais ?
C'est mon rêve. J'aurais souhaité qu'on me confie une résidence sur pilotis. C'était mon rêve. Ça ne s'est pas produit, donc ça doit se traduire maintenant. Mais avec toutes les contraintes en moins. Les certificats de conformité, je ne les ai pas. Là. Honnêtement, je ne les obtiendrai pas. Mais c'est tout mon plaisir. D'ailleurs, quand une construction dans la rue est un peu tordue, les colombages un petit peu inclinés, je remets une couche. Vous voyez. J'adore donner du caractère au lieu. Et je fais la même chose dans mes univers oniriques.
On sent le travail du temps dans ce que vous avez souhaité exprimer. Voilà, on a l'impression que tout a vécu dans ce que vous représentez.
C'est ce que j'essaie de faire ressentir, absolument. Ben, je suis content que vous le ressentiez, vous aussi. J'aime beaucoup voyager, découvrir. Alors d'ailleurs, quand je commence un dessin, je commence par exemple par un escalier et je me pose la question, où mène-t-il ? Alors, bah tiens, il serait peut-être bien dans une végétation. Alors, mais cette végétation, elle va où ? Bah, ça serait intéressant qu'elle supporte quelques maisons. Et puis je développe mon imaginaire au gré du dessin. Sur YouTube, vous voyez mes vidéos. Vous tapez Jean-Paul Chiffrin YouTube et vous verrez ma façon de travailler.
C'est compliqué que de quitter l'atelier pour aller finalement faire autre chose, montrer, aller rencontrer le public ou alors...
Ah, pas du tout. Alors, moi, je suis un grand sauvage, mais ça ne se voit plus parce que j'exerce ma passion et quand je peux échanger ma passion, je m'envole. Je suis dans la rue et je m'installe dans ma bulle. Je choisis un angle de vue, je mets mon siège et je ne vois plus personne, je n'entends plus personne. Je suis absorbé par mon sujet. Il peut se passer n'importe quoi. Les gens me parlent. Je ne connais pas leur visage. Par politesse, je leur réponds, mais je ne me retourne pas. Je consacre ma vision au lieu. Et je ne m'attarde jamais sur un dessin parce que je veux qu'il soit authentique. Je ne veux pas revenir. Je veux le premier jet.
Et quand vous êtes en atelier, que vous laissez libre cours à votre imagination, alors, il arrive que ça évolue en fonction de ce qui se passe sur le papier. Ça peut aller plus loin que ce que vous aviez imaginé.
Absolument. Mais il m'est arrivé de renverser de l'aquarelle sur ma page. Et vous savez, quand on regarde les nuages, on se dit, tiens, ça m'évoque telle ou telle chose. Eh bien, il s'est passé la même chose. J'ai vu ma tache sur cette page blanche et je l'ai interprétée. Notamment, il y en a un qui a été fait de cette façon. Voilà. J'ai renversé une tache, vous voyez. C'est une tache que j'ai jetée et ça m'a évoqué l'ensemble de ces maisons que j'ai construites sur cette tache. Et ça me permet de donner un mouvement général. Et ça reste très spontané. Et vous voyez, je ne m'attarde pas dans les détails, je les évoque. Et le visiteur, avec son regard, complète.
Alors, ce qui est aussi très surprenant, c'est qu'il y a des tas de fenêtres, il y a des tas de maisons, et il n'y a personne. À nous de laisser libre cours à imaginer qui habite là.
Vous avez raison de me poser cette question. Souvent, quand on met des dessins en ligne, on me dit « Mais pourquoi il n'y a personne ?» Mais je me dis, si j'y ajoute un personnage, on va perdre cette part de mystère. Là, ça reste très étrange. On ne sait pas où on va. Alors, je donne une échelle. En général, j'ajoute un bateau. Ça donne l'échelle de l'ensemble. Mais c'est tout. Il y a très rarement de personnages.
Pourquoi ?
Parce que, encore une fois, je trouve que le mystère est là. Et si je mets du monde, ça devient trop réel, trop figuratif. Et ça, j'y tiens pas. Cette part du mystère est essentielle chez moi.
Vous n'avez jamais pensé à être illustrateur ?
Alors on m'a dit, tu aurais dû faire de la BD. J'ai fait de l'architecture, j'avais des enfants, il faut vivre. Non, ça m'aurait plu de faire de la BD, ça m'aurait vraiment plu. Mais difficile d'en vivre, on ne vit pas de ça, on se fait plaisir. Moi, je cherche qu'à me faire plaisir.
Moi, j'ai l'impression que les gens qui aiment les mots peuvent commencer à écrire une histoire à partir de vos œuvres.
Et justement, quand je mets en ligne, parce que je mets la plupart de toutes mes créations, je les mets en ligne sur des sites, il y a 3 sites. Et ça me permet d'échanger d'ailleurs. J'ai des commentaires, il y a des gens qui écrivent un poème ou bien tout un reportage sur mes dessins. J'adore quand on fait ça, parce que moi je ne sais pas le faire.
C'est plus simple de mettre de la lumière ou c'est plus simple de créer de l'obscurité?
J'ai pas de préférence, tout m'amuse. J'ai pas de contraintes. Je suis né avec un crayon, j'ai pas de mérite. Hein. Je dessine les yeux fermés, la perspective, je vais pas me vanter, mais elle n'a pas de secret pour moi. Je fais ça très spontanément. Donc j'y ajoute de la couleur, j'ai peut-être une petite notion d'harmonie de couleur, mais c'est tout. Je suis pas un aquarelliste, moi.
Alors c'est un côté pénible, parce que ça paraît super simple au final quand vous dites...
Ouais,
pour vous. Comprenez que pour le néophyte, c'est alors, juste un peu agaçant.
On me dit...
Vous êtes gentil, mais agaçant.
On me dit, mais tu devrais donner des stages. Mais moi, j'en suis absolument incapable. Je ne vais pas proposer de faire des stages. Je ne suis pas pédagogue. Moi, je vais prendre le crayon et puis je lui dis, tu vois, tu fais comme ça. Je ne saurais pas lui expliquer. Il faut pas qu'il perde sa personnalité. J'ai un ami qui a un talent exceptionnel. Alors, pour moi, c'est le Graal. Il donne des cours. Il s'appelle Nicolas. Il donne des cours, et les gens vont évidemment prendre ses cours chez lui, et ils ressortent, mais ils font du sous-Nicolas. Ils ont perdu totalement leur personnalité. Donc, ce n'est pas un bon prof. C'est un excellent artiste, mais ce n'est pas un bon prof. Le bon prof va savoir tirer parti de votre talent, essayer de comprendre où vous en êtes et l'exploiter. C'est ça l'art d'un bon prof. Mais c'est extrêmement difficile. J'en suis absolument incapable.
Vous imaginez les intérieurs? Est-ce que on peut aller au-delà en imaginant, ben voilà, là on peut penser à un escalier en colimaçon.
Mais c'est une idée, je pourrais m'amuser à faire l'intérieur de cette construction par exemple, ça m'amuserait ça, oui, ça, c'est une idée. Ah merci, mon prochain, vous penserez à moi là. Moi je vais penser à vous en tout cas, ça me donne une idée ça, oui. Ouais, ouais.
Parce qu'on peut se demander, voilà, vous nous emmenez vraiment hein, dans ces constructions qui sont absolument...
Et encore, là j'ai été réaliste, j'ai mis une porte, mais... Là-bas, on m'a dit, mais par où on rentre? Et effectivement, j'ai oublié. J'ai oublié de créer un accès, là, vous voyez? Là, c'est plus compliqué. Il faut être souple.
Quoi, il y a des bateaux échoués, également, que vous peignez?
Alors, les épaves me fascinent. Les épaves me fascinent.
C'est récurrent, quand même, dans la... On voit souvent des scènes de bord de mer et des...
Mais parce que tout ce qui a du caractère... Tout ce qui a un peu du caractère, une masure m'inspire. On ressent quelque chose. Moi, dessiner un immeuble ne m'intéresse pas du tout, à moins qu'il ait l'art nouveau, par exemple, une certaine personnalité, un style. C'est comme un personnage. S'il est trop beau, ça ne m'intéresse pas. S'il est plein de rides, bossu, c'est merveilleux. C'est merveilleux.
Et quand on parlait d'épaves, ce sont des voitures. Ce qui compte, c'est quoi? C'est plutôt le... ce qui est au second plan, c'est-à-dire la maison du casseur, ou c'est...
Vous voyez, ça, c'est de l'imagination. Bon, j'observe dans la rue, et forcément, je me souviens de la 4 chevaux. Et là, j'ai fait une composition, c'est presque une ronde bosse. Et puis, je me suis dit, il faut la mettre près d'un garage. Alors, j'imagine un vieux garage. Et puis, je pense que sur le réseau filaire, c'est intéressant de les bloquer. Donc c'est une composition imaginaire, mais celle-ci pourrait exister. Hein. Celui-ci, j'en suis satisfait. On ne devrait jamais dire ça, hein. La modestie est partie. Mais celui-ci, je l'ai fait en une demi-heure. Il n'a que l'essentiel. Vraiment, ce que j'aime bien, c'est qu'on indique que l'essentiel. Si je rajoute quelque chose, c'est trop. C'est trop. Qu'est-ce que je vais ajouter à ça? J'ai indiqué que ce qui était nécessaire. Le bateau est enfoui dans le sol, qui était à peine représenté. Je n'ai indiqué que l'essentiel, et voilà ce que je voudrais obtenir sur chacun de mes dessins.
Ouais, enfin, moi, j'y vois plus le temps que le bateau, au final.
Le temps
encore une fois,
passe.
Je joue...
Eh oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est un prétexte, le bateau.
Comment choisir le papier? C'est pas le même entre les deux là.
Alors, je navigue entre deux fournisseurs. Un fournisseur allemand, c'est du papier 425 grammes, qui est très épais. C'est un émoulé. C'est l'équivalent de Canson, mais allemand. Voilà, là c'est du canson. Celui-ci est moins facile parce qu'il y a un peu de grain. Et comme je travaille moi avec uniquement avec des feutres, des 0,05, vous voyez les petites pointes, je suis un très très gros consommateur de papier, c'est quasiment du papier de verre. Donc je consomme énormément de feutres. Mais je tiens à cette pointe fine parce que ça me permet cette précision et éventuellement de revenir sur le même trait pour donner la valeur. Alors je travaille comme le photographe. Le photographe a un objectif qui donne un point précis, hein. L'angle de vue, il va mettre la mise au point sur ses fenêtres. Le reste va être flou et c'est ce qui m'intéresse. Je mets en valeur le point d'intérêt, c'était cet ensemble-là. Le reste, oui, je le devine, là-bas il est à peine représenté. Je fais l'essentiel, je veux que le regard se porte ici, non pas là-bas. Et si vous voulez découvrir, ben, on peut imaginer que ça va beaucoup plus loin, que c'est dans les brumes. Et je veux faire participer le visiteur.
Alors, ben moi j'ai de la chance que je vous rencontre alors que vous êtes en train d'installer. Comment vous décidez du voyage? Comment vous l'organisez? Parce que, voilà, comment les agences, ces œuvres côte à côte
Là, on m'a dit, débrouille-toi, t'as 10 mètres. Alors, j'ai tendance à en mettre beaucoup trop, moi. Mais j'ai des formats un peu particuliers. Puis, comme je suis tellement différent, tant pis, c'est ma boutique. On m'a dit, t'as 10 mètres, débrouille-toi, quoi. Alors, j'ai fait un petit schéma. Je dis, tiens, je vais les mettre de telle façon. Bon, c'est peut-être un peu chargé, mais ça fait rien, je trouve. Compte tenu de ce que je fais, ça n'a pas d'importance. On va chiner.
Jean-Paul Chiffrine, le croquineur, mais également aquarelliste, invité de l'association Aquasol à l'occasion de son salon international d'aquarelle qui se tient actuellement aux salles d'Anchin et en entrée libre à Douai jusqu'à la fin de semaine. Nous avons donc aujourd'hui rencontré Jeannick Vierger et Jean-Paul Chiffrine. Demain, nous serons avec Marie-Françoise Ingels et Pascal Pian. Rendez-vous demain pour découvrir deux autres univers d'aquarellistes dans La Puce à l'Oreille.
La Puce à l'Oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La Puce à l'Oreille sur Radio Scarpe 107.